Bonjour à tous et bienvenue sur Parasquad, le podcast du parachutisme. Je suis Quentin Duhaillon, parachutiste et passionné de parachutisme. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un parachutiste exceptionnel qui va nous partager sa vie à 4000 mètres d'altitude. Sur ce, je vous laisse avec notre invité du jour. Alors, prenez votre altimètre, enfilez votre parachute, on décolle. 3, 2, 1. Bonjour Patrice, bienvenue dans Parasquad.
Bonjour Quentin.
Alors, est-ce que tu peux... Moi, je te connais très bien. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Ben écoute, je m'appelle Patrice Barazuti, voilà, j'ai 65 ans, donc 45 ans de parachutisme en cumulé. Je suis à la retraite depuis près d'un an, voilà, de toute activité professionnelle que j'ai pu avoir, qui ont été diverses et variées. Je suis marié, donc avec Marianne, que j'ai connue grâce au parachutisme d'ailleurs, que j'ai connue en Espagne et que j'ai ramenée de là-bas. Voilà.
Ok. On va repartir du début de tout ça. On va partir plus dans le début aujourd'hui du parachutisme. Aujourd'hui, tu me dis que tu as plus de 10 000 sauts, ce qui représente un peu plus de 170 heures au cumulé dans le ciel. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier saut?
Alors, mon premier saut, je dirais que j'ai eu deux premiers sauts, en fait, hein, ce qui est un peu bizarre, mais j'ai eu un premier saut militaire, en fait. Hein. J'ai fait, à l'époque, on faisait encore notre service militaire, donc à 18 ans, j'ai fait une préparation militaire. J'ai fait mon service militaire au premier RPIMA à Bayonne, et j'ai fait mon premier saut militaire en mars 1978, donc c'est pas d'hier. Lors de ce premier saut, c'était la première fois je montais en avion aussi. Hein. C'était un peu pour ça que j'avais choisi les parrains, parce que j'étais attiré par tout ce qui volait un petit peu. J'ai fait 13 sauts militaires, donc pas grand-chose, hein, parce que j'ai fait un an de service. Et ensuite, j'ai fait un deuxième premier saut, si je peux dire comme ça. C'était deux ans plus tard, c'était en mars 80. Donc là, c'était les premiers sauts civils. Voilà, donc qui était en parachute hémisphérique, et c'était à la Ferté-Gaucher, donc un grand centre qui a été un des plus grands centres d'Europe, mais qui n'existe plus malheureusement.
Ok, est-ce que tu me disais que tu commences le parachutisme via l'armée, est-ce que c'est grâce à ça que tu décides de t'orienter vers le parachutisme, je veux dire beaucoup plus civil, ou est-ce que ça t'a donné le goût un peu du parachutisme?
Parachutisme militaire, non, ça m'a pas vraiment emballé. Disons que parachutisme militaire, enfin au niveau d'un appelé, hein, c'était des sauts en automatique à partir de Transal. Ça pas grand-chose de parachutiste en fait. Hein. J'avais essayé pendant mon service militaire de faire un stage. Parachutisme sportif, c'était à Bergerac à l'époque, et il n'y avait plus de place. Donc, je n'ai pas pu débuter le parachutisme sportif à ce moment-là. Et c'est deux ans après, donc après mon service militaire, ça s'est fait tout à fait par hasard, en fait. J'avais pas forcément plus envie que ça de faire du parachutisme ou de reprendre. Ça s'est fait par une petite annonce dans un journal local où j'habitais. Donc, je suis originaire de Chartres, en Eure-et-Loir, qui est plus connu par sa cathédrale que par ses sportifs. Une petite annonce, hein, de rien du tout, dans le journal. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais aller voir ce qui se passe. Et puis, j'ai fait une formation. Alors, à l'époque, les formations, c'était pas comme aujourd'hui. On n'arrivait pas le matin et on sautait le soir. Hein. C'est-à-dire, c'était une formation qui durait à peu près entre 15 jours et un mois. Donc, ça se faisait pas sur le centre même. Parce que moi, j'habitais à plus de 200 km d'un centre. Ça se faisait dans le club de Chartres où j'étais. Donc, 2 fois par semaine, à peu près, ben, on allait pour faire du pliage, pour apprendre les sorties, pour faire des roulés-boulés, parce que c'était des parachutes hémisphériques, donc les atterrissages étaient un peu costauds, quoi. Et voilà, il y avait des exercices physiques, fallait faire des montées de cordes, fallait faire des tractions. Enfin, bon, voilà, c'était compliqué à l'époque. Et tout ça pour faire le premier saut, donc en mars, premier saut civil en mars 80. Voilà.
En repartant sur ce premier saut en mars 80, est-ce que tu te rappelles du moment où tu es dans l'avion avec ton parachute peut-être sur le dos ou ventral, je ne sais pas comment c'était à l'époque, ils ouvrent la porte de l'avion et tu dois sauter. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué? Est-ce que c'est quelque chose, t'avais de l'appréhension? Comme t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là?
État d'esprit, tu sais, au début, hein, quand même après, j'avais fait 13 sauts militaires avec la peur au ventre à chaque fois, quoi. Ben là, c'était pareil, en fait, hein. Donc c'était un saut. Alors je voulais pas le montrer parce que évidemment, j'avais déjà quelques sauts militaires, donc j'étais déjà expérimenté par rapport au petit groupe que j'avais. Mais bon, j'avais la trouille comme tout le monde, et puis je me demandais bien ce que je faisais là à ce moment-là, hein, tout à fait.
Après ça, comment se passe la suite de ta formation? Est-ce que suite à ces premiers sauts, à la fin de la formation, donc j'imagine que tu deviens parachutiste, du moins dans le sportif, comment ça se passe? Est-ce que tu tombes amoureux du sport? Tu te dis je veux tout arrêter pour seulement vivre de ça? Comment ça se
Alors,
passe?
à l'époque, tomber amoureux du parachutisme, c'était compliqué parce que, bon, on faisait des sortes automatiques. Alors, on commençait en hémisphérique, hein, complètement rond, hein. Les parachutes qui étaient utilisés comme chez les militaires. Ensuite, on passait sur un rond, mais avec une fente, c'est-à-dire un peu dirigeable. On appelait ça le 6520. Ensuite, on passait sur on appelait ça un olympique à l'époque. C'était une voile avec des tuyères qui était encore plus performante. Et seulement à ce moment-là, on passait sur L. Donc les parachutes du type L étaient dans les années 80, début des années 80, c'était quand même assez rare. Donc la progression était très longue. Moi, alors les brevets, c'était pas comme aujourd'hui ABC, c'était des brevets BF1, BF2, BF3, BF4, BF5, BF6, etc. On n'en finissait jamais. Le BF6, pour faire court, ça correspondait au brevet B aujourd'hui. Voilà. Et pour arriver donc au BF6, j'ai mis à peu près 3 ans, hein, quand même. Hein. J'ai mis pas mal d'années. Parce qu'en fait, vous n'allez pas forcément sur le centre pour faire beaucoup de sauts. Déjà, on pouvait pas parce qu'il y avait beaucoup de monde et puis c'était un, deux sauts par jour maximum. Et puis, bah, j'y allais surtout parce qu'on était un groupe, on y allait pour s'amuser, pour faire la fête et puis sauter accessoirement. Donc même à l'époque, même si la météo était prévue mauvaise, on se déplaçait quand même. Tu vois, on allait sur le centre et on y passait le week-end. Si on pouvait faire un saut ou deux, ben c'était parfait. Parce qu'en plus, avec les parachutes ronds, c'était très contraignant avec le vent. C'est-à-dire, c'était 3 mètres secondes maximum. Imagine aujourd'hui, on est à 6-7 mètres secondes pour les ailes, pour les débutants. Donc il y avait quand même une contrainte météo supérieure à aujourd'hui. Mais tout me motivait quand même, parce que j'ai quand même fait à peu près une quarantaine de sauts en automatique. Hein. Donc aujourd'hui, quand on commence en automatique, on passe en commandé entre 5 et 7 000 sauts. Voilà. Moi, j'en ai mis près de 40, voire quasiment 50 d'ailleurs, parce que je passais en commandé, je revenais en automatique parce que ça se passait bien. Bon, à l'époque, il fallait que la position soit parfaite jusqu'à dans le bout des doigts et des doigts de pied, donc c'était assez compliqué, quoi. Voilà. Mais ce que je voulais, c'était absolument au début faire de la chute libre. Voilà. Et une fois que j'étais en chute libre, après, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et changer de parachute de plus en plus performant. Et ma seconde motivation, ensuite, c'était de passer sur L. Voilà. Et le passage sur L, c'était comme si on refaisait un premier saut, hein. C'est-à-dire on oubliait tout. On refaisait une formation pour ce saut sur L. On avait 5 sauts à faire avec cette aile et on recommençait tout, quoi. Voilà. Donc la progression de ce fait était relativement longue, un petit peu pour tout le monde d'ailleurs.
Ok, merci, merci pour tout ça, cette explication, elle est vachement intéressante. J'aimerais aussi en venir à quelque chose, bon, sur lequel aujourd'hui tu es, je pense, nationalement et mondialement connu, on va dire le voile contact. Quand est-ce que ça arrive dans ta vie, le voile contact? À quel
Alors,
moment?
c'est pareil, c'est un petit peu par hasard. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de choses en parachutisme par hasard, en fait. En fait, le club de Chartres, qui s'appelait le Paraclub de Réloir à l'époque, avait une équipe de compétition et c'était une équipe de voile contact. Voilà. Et cette équipe de voile contact, il y a un des membres qui avait décidé d'arrêter, donc. Bah, il recrutait une personne, il fallait une personne, et la personne du club qui était la plus proche du PF6 ou de la fin de sa progression, bah, c'était moi. Donc ils m'avaient un petit peu déjà pris sous leur aile bah, avant que j'aie terminé ma progression, et je me suis retrouvé en fait du jour au lendemain dans l'équipe de voile contact, sans trop avoir choisi, sans trop savoir ce qui m'arrivait et sans du tout savoir ce qu'était le voile contact hein, d'ailleurs hein, à l'époque. Voilà. Et voilà comment c'est arrivé, donc tout à fait par hasard. Et alors à l'époque c'est pareil, il n'y avait pas les brevets comme il y a aujourd'hui, c'est-à-dire le B1, B2, B3, B4, B5, ça n'existait pas. Moi, j'ai commencé le voile contact directement en numéro 4, numéro 3, numéro 4. Pendant les premières années où j'étais en équipe, je ne savais pas faire une base à deux. Aujourd'hui, c'est complètement.
D'accord.
Comment on parle comme ça, on dit ça, c'est complètement hallucinant. Mais voilà, c'était comme ça se faisait un peu à la volée, et puis j'ai progressé un petit peu sur le tas, quoi.
Ok, tu t'es alors ce que je comprends, c'est que tu t'es un peu aussi tu as commencé peut-être à certainement aimer cette discipline, je comprends bien?
Alors oui, bien sûr. Après, tu sais, quand on commence en compétition, quand on rentre dans une équipe, ben, on a envie d'en savoir plus, si tu veux. En plus, c'était un peu les débuts de la discipline. Je te parle de ça, c'était les années 80, 82, 83 à peu près, 82, 83, c'était le début du voile contact. Il y avait beaucoup de techniques à découvrir encore, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Bah oui, j'ai tout de suite eu envie d'aller plus loin et puis un petit peu d'aller titiller la compétition. D'autant plus que là où j'ai commencé en équipe, donc c'était toujours à la Ferté-Gaucher, il y avait des équipes de voile contact qui étaient un petit peu plus. Bon, qui avait un certain niveau, et il y avait également l'équipe de France qui s'entraînait là-bas. Et moi, j'ai eu envie un petit peu de faire comme eux, et c'était en je sais plus quelle année d'ailleurs. Enfin bref, ils ont été faire la Coupe du Monde et ils sont revenus avec un titre de champion du monde, tu vois. Et moi, je les voyais là-bas tous les jours, je me dis, ah, putain. Et je me suis dit, un jour, je serai champion du monde. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a fait partir, en fait. Et là, c'était le début de la motivation, surtout. Voilà. Parce que pour faire la compétition, il faut beaucoup de motivation. Voilà mes débuts en voile contact.
J'imagine. On va revenir sur ce côté champion du monde. Je suis sûr que tu as plein d'histoires par rapport à ça. Pour revenir un peu sur le début de la compétition, comme tu le disais, en 83, tu es dans l'équipe de voile contact de ton club. Tu montes sur le podium aujourd'hui du championnat de France. Est-ce qu'à ce moment précis, tu te dis que tu as les capacités de toi et ton équipe d'aller te défier aux plus grandes équipes mondiales?
Alors, bon, à l'époque, ça se passait pas forcément comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai commencé la compétition en 83-84, les premières compétitions. Avec mon club, j'ai eu la chance de décrocher ma première médaille en championnat de France. C'était sur le centre de Pujaud déjà à l'époque. C'était une médaille de bronze. Donc, tu vois, c'était que une médaille de bronze, mais elle avait été tellement chèrement acquise, ça avait tellement été difficile pour nous que ça a été, je crois, la plus belle médaille que j'ai eue de toute ma carrière. Voilà. Et ensuite, bon, ça a été, tout a été très vite ensuite. C'est vrai qu'il y a eu la sélection en équipe de France. Alors, ça s'est fait sur une semaine. Ça s'est fait à l'issue du championnat de France. Alors, pour être en équipe de France, il suffisait pas d'avoir un bon niveau, ce que je n'avais pas forcément à l'époque. Il y avait beaucoup d'autres conditions à remplir, c'est-à-dire il fallait de la disponibilité, c'est-à-dire on nous demandait 15 jours de disponibilité par mois pour les entraînements. Il fallait s'investir financièrement également, donc payer tous nos déplacements, mais également payer une partie de nos sauts. Voilà, donc c'était quand même beaucoup de contraintes, d'autant plus que moi à l'époque je travaillais, j'étais fonctionnaire, hein, je travaillais au Conseil général d'Eure-et-Loir. Donc quand on m'a proposé de participer à cette sélection, j'ai pas réfléchi en fait, j'ai dit oui tout de suite, sans penser aux conséquences qu'il pouvait y avoir derrière, qui auraient été nombreuses, les conséquences, hein, forcément. Parce qu'après, il se passe plein de choses. Et quand on rentre, après, quand je suis rentré à mon boulot le lundi, il a fallu que je leur explique. Je leur ai dit, voilà, j'ai la possibilité de rentrer en équipe de France. Encore faut-il que je sois sélectionné, mais voilà, il y aura des conditions, etc., etc., 15 jours par mois. Alors imagine un employeur quand tu lui dis que tu vas être absent, que son employé va être absent 15 jours par mois pendant un an, il saute au plafond, quoi. Voilà. Alors après, tout s'est arrangé parce que j'avais eu la chance de travailler dans une administration, donc il y a eu ce qu'on appelle une convention de sportifs de haut niveau qui a été mise en place, ce qui m'a donné de la disponibilité et ça permettait à mon employeur d'avoir un dédommagement du ministère de la Jeunesse et Sport. Enfin bref. Et comme j'avais des employeurs très compréhensifs et sportifs également, qui ont compris tout de suite mon intérêt et leur intérêt, hein, parce qu'une administration, quand il y a un sportif de haut niveau chez eux, finalement, ils ont des retours. Voilà. Donc ça m'a permis après d'aller m'entraîner tranquillement et en étant payé. Voilà.
Ok, donc comme tu le disais, tu es appelé pour une sélection d'équipe de France, que tu acceptes, tu rentres en équipe de France. Après, tu participes à ton premier championnat du monde. Comme tu me le disais, je crois qu'il y a un petit souci qui se passe à ce moment-là. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se passent tes premiers championnats du monde?
Alors, premier championnat du monde. Alors, ça fait partie quand même de mes mauvais souvenirs, oui, évidemment. Alors déjà, pour raconter l'avant-championnat du monde, moi, quand je suis rentré dans l'équipe de France, j'étais un petit peu, on était plusieurs, on était les petits jeunes de l'équipe, hein, c'est-à-dire il y avait les anciens qui avaient déjà gagné avant et il fallait gagner sa place. Voilà, donc moi, je me suis battu toute l'année, hein, pendant un an de préparation pour obtenir une place de titulaire dans l'équipe. Donc c'était dans l'équipe à 8, hein, que je postulais. Donc j'ai réussi à avoir une place de titulaire dans ce 8, d'accord? On est arrivé au championnat du monde. Donc c'était en Australie, hein. C'était déjà rien que le voyage valait la peine de s'entraîner fort et dur, voilà. Et la veille du championnat du monde, donc on termine, on était arrivé une semaine auparavant sur place pour faire quelques sauts d'entraînement. Et la veille du championnat du monde au soir, les organisateurs avaient prévu un saut de nuit, voilà, un saut de nuit. Et moi j'avais jamais fait saut de nuit, donc je me suis dit, je vais aller faire le saut de nuit. Et il y a quelques personnes de l'équipe, les anciens, eux, ils l'ont pas fait et ils m'ont dit, attention, hein, etc. Moi, j'ai fait le saut de nuit et la catastrophe est arrivée à ce moment-là, c'est-à-dire je me suis blessé, tout simplement. Je me suis vaché dans le bush australien. Je me suis posé et je me suis retrouvé avec un bras cassé. Voilà, donc. Je suis rentré là sur le site, sur le centre, un peu comme j'ai pu, en traversant la forêt, les barbelés, etc. Et le championnat du monde a été terminé pour moi. Voilà, c'était le soir, la veille du championnat du monde. Je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai passé une partie du championnat du monde à l'hôpital pendant que mes coéquipiers, eux, ont gagné le championnat du monde. Voilà, donc c'est resté un souvenir douloureux. Et bon, alors, si tu veux, je suis resté, le responsable de l'équipe m'avait laissé sur la liste de remplaçants. Donc, officiellement, j'ai eu reçu le titre de champion du monde. Mais c'est un titre de champion du monde que je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais comptabilisé ce titre, avec les autres parce que pour moi, je n'ai pas fait le championnat du monde, quoi. Voilà. Mais ça m'a servi de leçon.
Ok. Bah comme tu le disais, aujourd'hui, j'ai compté que tu avais 4 titres. Donc, du coup, selon toi, tu en as 3, c'est ça?
Non,
Des champions du
j'ai
monde?
4 titres, sans compter celui
D'accord.
d'Australie. Donc ça
D'accord,
fait
ok.
cinq si tu veux au total, mais
D'accord.
pour moi c'est quatre.
Ok.
Voilà.
Ok. Donc, tu as 4 titres de champion du monde en vol contact. Tu es champion du monde en 4 rotations en 92, 94 et 96. Et champion du monde en 8 vitesses en 1996. Est-ce que. Parmi tous ces titres que tu as obtenus, il y en a un que tu trouves peut-être plus important que les autres, qui a une note, une saveur différente, et pourquoi?
Certainement celui qui m'a laissé le plus de souvenirs, c'est le premier. Évidemment, c'était en 92, championnat du monde qu'on a eu la chance d'aller faire en Chine. Alors, pourquoi ce premier titre m'a fait plaisir? Parce que après ma blessure, donc c'était en 86, hein, le championnat du monde australien que j'ai loupé. Donc après, ça m'a laissé des séquelles quand même psychologiquement. C'est-à-dire en 88, j'ai de nouveau été dans l'équipe, mais ça n'a pas marché du tout parce que j'étais complètement à côté. Je me suis retrouvé remplaçant. D'ailleurs, l'équipe n'avait rien gagné. Et en 90, donc on a été faire un autre championnat du monde en Thaïlande cette fois. On a fait deuxième à 8. Donc encore une déception si tu veux, parce que l'objectif évidemment pour moi c'était d'être champion du monde un jour, voilà. Et je voyais quand même ça s'éloigner de plus en plus et j'ai même douté à un moment donné. Je me suis dit peut-être que j'y arriverai jamais, peut-être qu'il faudrait peut-être mieux que je m'arrête et puis on en reste là. Mais c'était très frustrant quand même être passé si près et pas l'être. Donc on a continué, j'ai continué en fait. Et enfin, en 92, donc en Chine, on a pu obtenir notre titre à 4 rotations, qui était la première fois, le premier titre dans cette discipline pour la France, hein. C'était un peu les Chinois avaient un peu la mainmise sur cette discipline, et l'année d'avant, c'était les Américains qui avaient gagné, et on voulait absolument gagner. On a mis les moyens, on avait fait beaucoup de sauts dans l'année, et on a gagné enfin. Enfin, on a gagné le 4 rotations cette année-là. Voilà. Donc, pour moi, ça reste le plus beau titre pour moi. Voilà.
Ok. Et en 96, j'ai vu que du coup, tu as été champion du monde en 4 rotations et en 8 vitesses également. Est-ce que c'est une année aussi qui t'a marqué?
Alors, 96 était une année un peu particulière parce que, en fait, il y a trois disciplines. Il y avait trois disciplines à l'époque en voile contact. Il y avait le 4 rotations, le 4 séquences et le 8 vitesses. Et l'objectif de la France, en fait, c'était déjà notre objectif les années auparavant, c'était de gagner les trois disciplines, en fait. Voilà. Et en 96, eh ben, c'est arrivé. Voilà, on a gagné les trois disciplines, le 4 séquences, le 4 rotations et le 8 vitesses. Donc oui, ça reste une année. Et en fait, c'était en plus la fin d'un cycle, c'est-à-dire le noyau de l'équipe, on était ensemble depuis près de 10 ans. Donc on avait vécu beaucoup de choses et c'était la fin du cycle et la plupart de ces gens-là arrêtaient la compétition, l'équipe de France, cette année-là. Donc, ça a été une fin un petit peu en apothéose, on va dire.
Ok. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là, toi, où tu décides d'arrêter la compétition?
Alors, oui, parce qu'évidemment, oui, comme on était plusieurs à arrêter l'équipe de France, oui, j'ai décidé d'arrêter la compétition à ce moment-là. Alors arrêter la compétition, c'est pas toujours facile parce que derrière il y a un peu un grand vide, on va dire. Parce que faire de la compétition, bon, ça a duré quand même près de 10 ans l'équipe de France, donc c'est rythmé par les sauts d'entraînement, les semaines de déplacement, les voyages, les compétitions, etc. Donc c'est une vie différente, une vie à part entière, quoi. Voilà. Et quand on arrête la compétition, bah, du jour au lendemain, on se retrouve à son bureau et puis il n'y a plus rien. Donc bah, on réfléchit à notre nouvelle vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà.
Là, je comprends, je comprends. Dans un autre angle, du coup, tu as une grande carrière en compétition, mais j'ai aussi vu que tu avais beaucoup de records du monde, ça peut être en grande formation, 4 rotations, 8 vitesses. Concernant tous ces records, est-ce qu'il y a un record dont tu es le plus fier et pourquoi?
Alors, bon, des records, c'est fait pour être battu, comme on dit. Mais bah, je crois que, oui, le record dont je suis le plus fier, bah, en fait, c'est un record qui n'est pas du tout officiel et qui n'était pas comptabilisé comme record. En voile contact, à l'époque, bon, c'était jugé, c'était pas jugé par vidéo air, c'était jugé par vidéo sol, et le chronomètre démarrait dès la sortie du premier coéquipier de l'avion. Alors que maintenant, bon, il y a 30 secondes avant que la base soit faite, et le chrono démarre seulement à ce moment-là. Donc, pour gagner du temps, il fallait faire des bases à 4 très très rapides, et tout le temps gagné sur la base à 4, eh ben, c'était du temps gagné ensuite pour engranger des points. Voilà. Et nous, la France, c'était notre point fort. On arrivait à faire des bases très rapides parce que pour les points, ben, on n'était pas forcément les mieux, les meilleurs. Voilà. Et je crois que la base la plus rapide qu'on ait pu faire à 4, on voit le contact, donc les 4 coéquipiers qui sortent de l'avion et qui s'accrochent à 4, c'était en 12 secondes à peu près, en moins de 12 secondes. Donc compte 12 secondes et regarde les voiles s'accrocher, ça va très très vite. Même aujourd'hui, je crois, si tu poses la question à des gens de l'équipe de France de voile contact, ils savent pas faire une base en 12 secondes. Il faut mieux pas qu'ils essayent parce qu'en fait, c'était relativement dangereux. Parce qu'on se tirait vraiment, on sortait très très proche l'un des autres et bon, c'était limite. Voilà. Voilà. C'est le record. Après, dans les records officiels, bah, je dirais les records de grande formation. Bon, j'ai eu la chance d'en faire pas mal. On a été les premiers en France à faire des records dits en, comment dire, en forme de losange, en diamant, etc. Et le plus beau record qu'on ait fait, je crois qu'il a laissé beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens, c'était le 36. On avait fait un diamant parfait à 36, donc avec une ligne parfaite dans le milieu. C'était d'ailleurs en face de moi, j'ai la photo du 36, c'était en 88. Voilà. Je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué. Voilà.
Moi je trouve ça toujours impressionnant, hein, même si je me rappelle dans le ciel de Maubeuge que vous étiez 3 ou 4, j'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant, et encore plus sur les photos à 36, oui, c'est vrai que c'est super impressionnant, et je trouve ça dingue personnellement, ça m'impressionne
Bah,
toujours. Est-ce qu'il y a un record pour toi qui a peut-être été hyper compliqué à battre, où tu t'es dit non, là on va pas réussir, et finalement ça a marché.
tous les records sont compliqués à battre. Mais bah, justement, ce record-là à 36, c'était à Lyon-Bron, sur l'aéroport de Lyon-Bron à l'époque. Et c'était un week-end de l'Ascension. Et on avait un certain nombre de sauts à faire. Et ça passait pas. On n'arrivait pas à boucler le record. Et ça s'est fait le dernier jour sur le dernier saut. Voilà, le dernier jour sur le dernier saut, ben, je pense que tout le monde était motivé et puis que ça s'est bouclé à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que ça reste un record qui nous a tous marqués parce que on l'a tous voulu, on s'est tous battus pour rentrer dans cette formation. Et voilà, donc c'est certainement le meilleur souvenir.
Je comprends, je comprends. Et en tout cas, l'image est très très jolie. Alors, pour préparer un peu cette émission, je t'avais eu au téléphone et tu me parlais. Il y a quelque chose un peu qui m'a interpellé. Tu me parlais de l'âge d'or du voile contact. Pourquoi l'âge d'or du voile contact?
Ben, c'est-à-dire, c'est une période, ben, disons que comme je te disais, on avait tout à découvrir dans la discipline. Donc, on a tous progressé un petit peu ensemble. On a vécu pendant une dizaine d'années en équipe de France. Enfin, quand j'étais en équipe de France, on était tout un groupe là où on a fait beaucoup de choses ensemble. On a été dans des galères, on a gagné, ouais, on a perdu. Enfin bon, on avait beaucoup de choses ensemble. Et puis à l'époque, malheureusement, ça, c'est un petit peu dans toutes les disciplines. Il y avait pas mal d'équipes au championnat de France, je m'en rappelle. Il pouvait y avoir 14, 15, 16 équipes différentes. Aujourd'hui, les championnats de France, si on regroupe 4-5 équipes, c'est tout, que ce soit en VR, en discipline artistique, dans toutes les disciplines. La compétition a l'air d'intéresser de moins en moins de monde. À l'époque, également, on avait un petit peu, en dehors de l'équipe de France, il y avait la culture de la grande formation, justement. En World Contact, on faisait des records de grande formation. Et la particularité, c'était des records du monde franco-français. C'est-à-dire, il n'y avait que des Français dedans. Voilà. Donc, on a commencé par un 22, après, c'était un 32, c'était un 36, ça a été un 43, un 45, que des Français. Et la condition pour rentrer dans ces formations, pour participer à ces records, ben, il fallait que les gens fassent de la compétition. Voilà, il fallait que les gens fassent une équipe et qu'ils se présentent au championnat de France. Donc, ça donnait quand même une ambiance particulière. Et c'est une époque où on faisait aussi pas mal de sauts de démonstration. Voilà. Ce qui ne se fait plus beaucoup parce que bah, le matériel n'est plus forcément adapté pour les sauts. Bon, à l'époque, nous, on avait des voiles de 210 pieds carrés. Hein. Imagine aujourd'hui, en voile contact, ils ont des voiles de 70-80 pieds carrés. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'aller se poser dans un centre-ville avec ce genre de voile. Voilà. Et ben voilà, tout ça réuni faisait qu'on a. Et puis bon, on gagnait des titres. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de titres, hein, bien sûr. C'est un petit peu différent. Donc c'est un peu, voilà.
Ok. Tu me parlais de stage d'or. Tu m'as également dit que tu avais eu l'occasion de faire peut-être le tour du monde avec le parachutisme. Est-ce que cet âge d'or du voile contact et pas que du parachutisme t'a permis aujourd'hui de visiter le monde entier? Comme tu disais, tu as également, je crois, fait des émissions télé, tu faisais des représentations. Tu étais beaucoup vu, je veux dire, sur la scène même du public. Est-ce que c'est grâce aussi un peu à ça ou voilà?
Ben, oui, c'est vrai. À l'époque, on faisait, outre les sauts de démonstration, on faisait aussi des émissions de télévision. Bon, on a beaucoup travaillé pour une émission qui était très connue, sur une chaîne de télévision. La première chaîne, c'était, Ushuaïa. Donc, on a eu la chance, de faire des sauts sur des sites, magnifiques. On avait fait, bon, il y avait des émissions sur France 2 à l'époque. Il y avait, ça s'appelait Tout le sport, ou je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Il y avait des émissions en direct, hein, sur le parachutisme. Je me rappelle à la Ferté-Gaucher. Il y avait eu un samedi après-midi entier en direct sur le parachutisme. Voilà. Donc ça n'existe plus trop. On avait Ben oui, quand tu dis j'ai beaucoup voyagé, oui, le parachutisme m'a permis de faire le tour du monde quasiment. J'ai eu la chance, en plus, on a eu la chance à cette époque-là de faire des championnats du monde dans plein de pays différents comme l'Australie, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie. Voilà, je suis même allé aux États-Unis. Alors, contrairement à toutes les équipes actuellement, je n'ai jamais sauté aux États-Unis. Voilà. Voilà, alors qu'aujourd'hui, toutes les équipes de France vont sauter aux États-Unis. Enfin bref, mais par contre, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis grâce au parachutisme, parce que dans la région où j'habitais, j'avais été élu meilleur sportif de la région une année, et j'ai gagné un voyage aux États-Unis, donc ce qui m'a permis de visiter pendant une semaine New York et ses alentours. Voilà. Donc,
Et tu t'es même pas fait un petit saut quand tu étais là-bas, tu t'es dit seulement le voyage, une pause du parachutisme, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Donc, bah, j'ai connu la Nouvelle-Calédonie, enfin beaucoup de pays en fait, Sénégal, etc. Voilà. Moi, je dis toujours, le parachutisme m'a permis de faire le tour du monde. Voilà, ce que je n'aurais pas pu me permettre autrement.
Je me permets une petite aparté par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un des pays sur lesquels tu as visité à l'occasion peut-être d'un saut en parachute qui t'a peut-être particulièrement marqué, donc tu qui t'a ouais qui t'a assez marqué? Est-ce qu'il y a un des pays?
Je reviens toujours au même. Hein. Je crois que c'est notre séjour en Chine qui nous a quand même le plus marqué tous, hein, d'ailleurs, pour tout l'environnement, pour l'accueil des Chinois également qu'on a eu. Et puis, imagine, c'était en 92, donc la Chine en 1992, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est un des pays qui reste dans mes souvenirs, oui. Après, il y a eu la Nouvelle-Calédonie aussi, où j'ai eu la chance d'aller faire des sauts de démonstration. Et la Nouvelle-Calédonie, après, je me suis retrouvé comme directeur technique quelques années après. Voilà. Donc, c'est deux pays. Enfin, les pays, la Nouvelle-Calédonie reste comptée quand même. Hein.
Ok, mais justement, après, c'est bien que tu parles de ce rôle de directeur technique. Du coup, tu arrêtes la compétition. Tu me disais que ça laisse un grand vide. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de parachutiste, d'ex-compétiteur, je veux dire, grand compétiteur de parachutiste? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe?
Ben, quand j'ai donc c'était après le championnat du monde de 96, j'avais décidé, on a arrêté, j'ai arrêté la compétition, comme certains de mes coéquipiers. Et ben, je me suis retrouvé le lundi matin dans mon bureau au conseil général. Et là, je me suis assis, je me suis posé la question. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et à vrai dire, je me voyais mal passer la fin de ma vie professionnelle dans un bureau, entre quatre murs, parce que bon, tout ce que j'avais vécu pendant toutes ces années, ça me paraissait impossible. Voilà. Alors, en étant fonctionnaire, on a une possibilité, c'est-à-dire c'est de prendre une disponibilité, c'est-à-dire c'est un congé sans solde, on peut prendre jusqu'à 10 ans. Et entre-temps, donc j'avais commencé une activité de directeur technique, disons un petit peu par intérim en Nouvelle-Calédonie pour faire des remplacements. Entre deux championnats du monde, j'allais là-bas. Et au retour, ben, ils m'ont sollicité. Ils savaient que j'avais arrêté la compétition. Ben, ils m'ont sollicité donc en Nouvelle-Calédonie pour être leur directeur technique. Voilà. Et là, c'était le grand cas de conscience parce que évidemment, ça faisait 13 ans moi, que je travaillais au Conseil général. Du jour au lendemain, tout plaquer et partir, on le fait pas. On le fait pas si facilement que ça. Hein. Faut de la réflexion. Et puis à un moment donné, bah, j'ai dit, ah, puis zut, voilà, on y va. Donc j'ai prévenu mon employeur, j'ai fait le petit courrier qui va bien. Alors quand tu écris le courrier par lequel tu démissionnes pas, mais que tu prends une disponibilité de 10 ans, bon, c'est une décision qui est quand même assez difficile à prendre. Mais une fois qu'elle est prise, après, on est déjà parti. Hein. Voilà. Et donc,
J'imagine.
alors, pour être directeur technique, c'est pareil. Il faut avoir à l'époque, il fallait au minimum le brevet d'état d'éducateur sportif premier degré. Diplôme que j'avais eu la bonne idée de passer pendant que j'étais compétiteur de haut niveau, parce qu'on a eu les possibilités d'avoir des allègements en tant qu'athlète de haut niveau. Donc, je l'avais passé en me disant que, bon, de toute façon, ça ne me servira à rien, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc, j'avais passé le brevet d'État, plus la qualif tandem dans les années 80, fin des années 80. Et finalement, ben, ça m'a bien servi parce que je suis parti en Nouvelle-Calédonie comme directeur technique. Je partais pour une période pas forcément très longue, hein, vu que j'avais pris une disponibilité au sein du Conseil général, donc dans un objectif d'y revenir à un moment donné. Et puis, ben, le temps est passé, les postes sont enchaînés, et puis je n'ai jamais réintégré l'administration. J'ai fait 25 ans de direction technique.
Ok, du coup, tu as fait directeur technique. Bon, je connais un peu, mais pour ceux qui ne savent pas, tu étais directeur technique en Nouvelle-Calédonie. Tu as commencé là-bas et après, comment ça s'est passé? Tu as changé de centre?
Alors, Quand on est directeur technique, moi je compare ça à des postes d'entraîneur de football. C'est-à-dire on est toujours sur un siège éjectable hein, quand on est directeur technique. Donc on reste jamais très longtemps sur un poste. Hein. Voilà. Donc en Nouvelle-Calédonie, j'y suis resté 3 ans, près de 3 ans, oui, c'est ça. Donc ensuite, quand je suis rentré, alors je suis pas parti tout seul là-bas. Je suis parti avec Marianne. Hein, que vous connaissez déjà, on était déjà ensemble à l'époque. Hein. Donc, c'était encore plus difficile pour partir, parce que partir tout seul, c'est une chose. Partir à deux, parce qu'elle, elle vivait toujours en Espagne, à Barcelone, et donc elle avait qu'à faire comme moi, quitter son travail, etc. Enfin, on est partis ensemble. On est rentré quelques années plus tard, et là, j'ai eu un poste. Alors, j'étais pas directeur technique à Strasbourg, où j'étais adjoint. Ensuite, j'ai travaillé à Colmar comme directeur technique. Ensuite, j'ai fait 1 an où j'étais indépendant. Voilà. Et j'ai été directeur technique une saison à Saint-Florentin. Ensuite, j'ai été directeur technique à Peugeot. J'ai fait 5 ans à Peugeot. Et ensuite, Maubeuge. Et là, Maubeuge, par contre, j'y ai passé 9 ans quand même. Donc, pareil, c'était mon dernier poste. Voilà.
Ok. Comme tu le disais, tu as une expérience aujourd'hui dans le parachutisme qui est incroyable. Mais j'ai l'impression que le parachutisme, il t'a aussi beaucoup donné, je pense également. Est-ce que ce poste peut-être de directeur technique de centre, c'est un peu une façon pour toi de faire un transfert de compétences, de pouvoir partager peut-être ton expérience avec les autres, les nouveaux, ceux qui ont moins d'expérience que toi?
Alors, oui, évidemment, quand on est directeur technique d'un centre, bon, c'est des postes à responsabilité. Alors, un directeur technique n'a pas besoin d'être un technicien hors pair dans toutes les disciplines, hein. Le directeur technique, il est là pour coordonner un petit peu tous les gens, les moniteurs qu'il a sur son centre. Il est là pour enseigner. Il est là pour gérer la sécurité dans l'activité. C'est lui qui est en contact un petit peu avec tout le monde, donc c'est un peu la tête du directeur technique, je vais dire, qui fait la pluie ou le beau temps sur un centre. Hein. C'est lui qui décide de tout, et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais effectivement, ça permet de transmettre toute son expérience. Ça permet effectivement d'être en contact permanent avec les adhérents, avec des jeunes, des moins jeunes, etc. Et puis de transmettre, tout simplement. Voilà. C'est un peu le travail de l'éducateur sportif quelque part, mais le directeur technique, lui, il a un petit peu plus à faire parce qu'il faut qu'il surveille tout le monde. Voilà. Enfin, surveiller, non. C'est s'occuper de tout le monde. Voilà.
Ok. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à la petite partie que j'appelle la partie anecdote. Je te pose une question, tu as le droit à une réponse. Bon, je comprends et que ça va certainement être peut-être compliqué. Néanmoins, voilà, c'est ce que je te propose de faire. Ton plus beau saut aujourd'hui?
Mon plus beau saut, écoute, je vais toujours en revenir à la même chose. C'est mon.
Pas grave.
Bon, effectivement, il y en a peut-être deux. C'est le dernier saut du championnat du monde en Chine, toujours. Le plus beau saut, c'est certainement celui-là. Ensuite, des sauts. Alors, un plus beau saut, oui, j'en ai un. Bon, comme je dis tout à l'heure, on avait l'occasion à l'époque de faire pas mal de sauts de démonstration. Et j'ai eu la chance avec quelques-uns de mes coéquipiers à l'époque de faire un saut au-dessus de Monaco. Alors, c'était pour le lancement. On était en équipe de club, on était sponsorisé, donc c'était avec mon équipe de Chartres. Hein, on était sponsorisé par une marque de parfum très très connue. Et pour le lancement d'un parfum, cette marque avait décidé de faire les cérémonies d'usage à Monaco. Voilà. Et donc, on a été sollicité pour faire un saut à Monaco. Et ce saut, en fait, il était en smoking. Donc, imagine, tu te retrouves sur les patins d'un hélicoptère au-dessus de Monaco où tu es en smoking avec le nœud papillon, les chaussures vernies, et tu dois aller te poser sur le bord d'une piscine dans un hôtel au milieu de la ville. Voilà. Et ça, c'est un souvenir qui est inimaginable. Voilà. Ça, c'est certainement
J'imagine.
un des plus beaux sauts que j'ai pu faire.
J'imagine, j'imagine. J'aimerais beaucoup le faire aussi. Je pense pas que j'y arriverai, j'espère. On ne sait pas. Mais merci de nous partager tout ça. Alors maintenant, bon, si tu en as un, ton pire saut.
Bah, le pire saut, c'est le saut où je me suis blessé en Australie, évidemment. C'est le saut que j'aurais voulu ne jamais faire. Voilà. Donc, mais bon, évidemment, c'est fait. Mais cela étant, ça m'a donné l'expérience aussi. Hein, voilà. Mais la blessure, effectivement, c'est le pire qu'un sportif de haut niveau peut connaître, hein, ou un parachutiste, tout simplement, quoi. C'est jamais agréable de se blesser.
Je comprends. Un autre registre, j'ai un des amis à toi, d'ailleurs qui est passé dans le podcast, que j'avais au téléphone ce matin, qui me disait, Patrice a des histoires à raconter, c'est vrai qu'il a beaucoup utilisé les coupes suspentes. Est-ce que tu te rappelles de ta première libération?
Alors, ma première libération, alors bon, j'en ai 25 hein, des libérations, donc j'en ai pas mal.
Ok.
Ma première libération, alors c'était toujours dans le cadre d'un saut de démonstration sur le salon du Bourget, le salon aéronautique du Bourget, qui est quand même un salon mondialement connu. À l'époque, tous les ans, il y avait des sauts. La Fédération française de parachutisme était représentée à ce salon. Moi, j'étais tout jeune aussi, j'avais pas beaucoup de sauts. On sautait de Transal, je crois. Donc, on montait à 4000 ou 4500 mètres, enfin bref. Et pour faire le voile contact, on n'avait pas le droit d'ouvrir au-dessus de 2000. Donc, on chutait de 4000 jusqu'à 2000. Mais on avait des voiles qui n'étaient pas du tout adaptées pour la chute libre, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai cassé les suspentes de ma voile, voilà. Et c'est ma première libération a été sur le salon aéronautique du Bourget. Et ma voile qui a terminé sur un hangar dans des hauteurs pas possibles. Enfin bon, encore une histoire qui était abracadabrante, mais voilà.
Ok,
Ma première.
ok, c'est vrai que c'est vraiment pas commun. C'est vraiment pas commun. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait toi aujourd'hui, peut-être parce que je te dis, pour moi, le voile contact c'est quand même un sport qui est hyper engagé. D'être, on voit t'as les pieds dans la voile de ton partenaire. Est-ce que toi tu t'es déjà fait une petite frayeur en voile contact ou en parachutisme où tu t'es dit waouh, c'était engagé?
Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui le voile contact est quand même très réglementé, le matériel est sophistiqué et tout se passe bien aujourd'hui. Les procédures de secours en voile contact sont quand même très très rares. Bon, toutes les techniques sont un petit peu connues. Donc, mais à l'époque, on défrichait un peu hein, le voile contact, donc on faisait un peu. Découvrait et puis on faisait un peu n'importe quoi des fois quand même hein. Et oui effectivement on s'est fait des frayeurs. Bah, je me souviens bah, c'était bon c'est une histoire qui a été un peu qui aurait pu finir dramatiquement mais c'était pendant nos stages de sélection en équipe de France d'ailleurs ma première sélection en équipe de France on avait fait un saut à 4 et la formation a décroché en fait. La formation à 4 a décroché, on s'est retrouvé en mêlée à 3, oui, on était 3, et à l'époque on avait du matériel avec des poignées de libération qui étaient au-dessus de la sangle de poitrine, et bon, on était torsadés, etc., et on ne pouvait pas libérer. Voilà, on avait atteint la limite du matériel et on ne pouvait pas libérer. Donc on était trois et on tirait sur nos poignées de libération. Et impossible de sortir les poignées et ça descendait très vite parce qu'il y avait une voile, une demi-voile qui portait 3 personnes, quoi, voilà. Donc ce jour-là, effectivement, on s'est fait très très peur. Les jacks, comme aujourd'hui, on appelle ça les coupes suspentes là, sur le matériel, n'étaient pas obligatoires. Évidemment, moi, quand c'est pas obligatoire, je ne fais pas. Je n'avais pas de coupe suspente. Mes deux coéquipiers avaient des coupes suspentes. Donc, ils ont commencé à tailler un petit peu tout ce qu'ils avaient entre les mains. Donc, les voiles, les suspentes, les harnais, enfin, tout. Quoi, voilà. Et. Donc ça s'est finalement bien fini, mais j'avoue que ce jour-là, c'est vraiment la seule fois dans ma vie de parachutiste hein, que bah, j'ai bien cru que c'était la fin. Voilà. Ou tout du moins que ça allait se terminer quand même dramatiquement. Voilà. Et ça s'est terminé par une côte cassée ou fêlée d'ailleurs d'un de mes coéquipiers. Donc on s'en était bien sorti. Voilà.
Et je pense que c'est là où on voit aujourd'hui, grâce peut-être à l'expérience que tu as eue par tous tes sauts, aujourd'hui vous êtes enfin, sorti de cette manière, j'imagine. Ta figure préférée maintenant en voile contact, quelque chose que tu trouves super joli. C'est quoi que tu préfères en voile contact?
Alors, le voile contact, je pense que la figure la plus jolie, c'est le diamant A4. Alors pourquoi? C'est une figure qui n'est pas très compliquée à faire et qu'on peut piloter facilement. C'est-à-dire, c'est une figure que nous faisons régulièrement dans des sauts de démonstration, parce que c'est une figure qu'on peut se déplacer avec comme une voile seule, quoi. On peut aller à droite, à gauche, faire les 360, etc. Et c'est très visuel pour le public. Voilà. Donc c'est oui, c'est la plus belle figure du point de contact, le diamant A4.
Merci pour cette réponse. Alors cette question, je pense qu'elle est un peu, elle va être un peu compliquée pour toi à répondre. Si tu devais retenir aujourd'hui qu'un seul moment de toutes ces années de parachutisme, donc ça fait 45 ans, tu m'as expliqué, lequel ce serait et pourquoi?
Mon meilleur moment vécu dans ma carrière parachutiste? Ah, question assez difficile. Cela étant, tellement le souvenir est encore fort que je m'en souviens comme si c'était hier. Ce moment n'a pourtant duré qu'une trentaine de secondes, 40 peut-être, pas plus. Et bien encore une fois, nous allons retourner en Chine pour mon premier titre de champion du monde, plus précisément sur le dernier saut. Ce moment fabuleux de pur bonheur se situe en fait entre la fin du saut, donc la fin du temps réglementaire de travail, hein, quand le chrono s'arrête, et mon atterrissage. Alors, on est aux huitième et dernière manche. Nous avons à ce moment-là 3 points d'avance sur les Américains. Donc, les Américains qui sont le champion du monde en titre, hein, donc de sérieux clients. Nous sommes les derniers à sortir de l'avion, l'ordre inverse du classement, hein, comme il est de coutume dans les compétitions. Nous savons le nombre de points que nous devons faire pour nous assurer de la victoire à ce moment-là. Avec 3 points d'avance, c'était quand même relativement confortable, mais suffit d'une catastrophe et puis on peut tout perdre, quoi. Voilà. Mais dans l'avion, il nous suffit de regarder Patrick Castella, notre coach et coéquipier, une force de la nature, un indestructible, comme on disait toujours, toujours rassurant, ben, pour comprendre qu'à ce moment-là, rien. Mais vraiment rien ne peut nous arriver. C'était la confiance. Donc, on a fait notre saut. On a fait, comme on dit, on a fait le boulot. On a assuré le saut qu'il fallait. En fin de travail, d'ailleurs, bah, c'est le cri de joie. Parce que, évidemment, on sait qu'on a gagné de toute manière. Ça, on le savait. Donc, avant la séparation, bah, on s'est bien défoulé. Voilà. Et mon meilleur moment donc de ma carrière parachutiste va commencer maintenant, après la séparation. Voilà, je suis seul sous ma voile, sous mon parachute. Je suis champion du monde, imagine, champion du monde pour la première fois. C'est enfin fait. Après toutes ces années d'attente depuis ma sélection en 85, de déception, faites de déception, de désillusion, de blessure. Évidemment, on va pas revenir sur ma blessure sur le premier championnat du monde. En Australie et autres d'ailleurs. J'en pleurais, je hurlais tellement c'était intense. Et puis à ce moment-là, plein de choses nous passent par la tête. C'est assez incroyable. Et ça, ben, jusqu'à mon poser. Voilà, jusqu'à mon poser, j'ai dégusté ces quelques instants, ces quelques secondes vraiment exquises, uniques. Et c'est des moments qu'on ne veut partager avec personne. Parce que, évidemment, quand on fait du voile contact ou du voile relatif, c'est des sports d'équipe. Donc, évidemment, on n'est pas seul. Un titre, ça se partage. Et après l'atterrissage, bah, c'est déjà plus pareil. Hein. Comme je dis, y a les embrassades, les congratulations. La vie d'équipe, bah, reprend. Parce que, évidemment, on est content d'être là. On est content d'avoir gagné. Le titre est partagé. Et puis, bah, surtout, la pression retombe. Voilà. Voilà, donc en quelques mots, le résumé de mon meilleur moment de ma carrière parachutiste, qui n'a duré qu'une trentaine de secondes. 30 secondes sur 45 années de parachutisme, bah, ça peut paraître peu ou pas grand-chose, mais en tout cas, je souhaite à tous les jeunes compétiteurs de vivre cela un jour, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors bien évidemment, des bons moments, bah, tu penses bien que j'en ai eu d'autres, hein, heureusement, mais beaucoup même. Mais c'est celui que je retiendrai.
Mais alors, pour être très fort avec toi, je la pose à tous les invités. Je ne m'attends pas à une réponse seule. Je comprends que la question peut être très compliquée à répondre. Dernière question sur ces anecdotes. Le saut que tu rêverais de faire, s'il en reste un?
Ah, s'il en restait un. Je parlais des records de grande formation. Alors, le record actuel, c'est un diamant à 100. Donc c'est immense, hein, c'est fabuleux. C'est un record multinational, c'est-à-dire je crois qu'il y a 11 ou 12 nationalités différentes dedans. Bon, moi j'ai pas pu y participer parce que c'était aux États-Unis et que à l'époque ça le faisait pas. Il y a eu deux Français ou trois Français, je crois, qui sont dedans uniquement. Eh bien, si j'avais un saut à faire, ça serait le diamant. Au-dessus du 100, c'est-à-dire 121, c'est avec une ligne de 11, à 11 fois 11. Voilà. Si j'avais un saut à faire, ce serait celui-là. Voilà.
Et je vais en rajouter une, je viens d'y penser, et je la trouve intéressante. Aujourd'hui, t'as arrêté ton rôle de directeur technique, j'imagine que tu sautes beaucoup moins, je ne sais pas si tu sautes encore. Est-ce que ça te manque pas un peu?
Alors, non, en fait, je fais une réponse un peu étonnante. Non, ça manque pas. Ça me manque pas parce que, en fait, je crois que j'ai fait une carrière parachutiste que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Hein. Quand on est en équipe de France, on a la chance de faire beaucoup de sauts. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sauts à cette époque-là. Ensuite, quand j'étais directeur technique, j'ai beaucoup moins sauté, évidemment, parce que le rôle d'un directeur technique, c'est pas de passer sa journée le cul dans l'avion, c'est quand même de gérer ses séances, donc d'être un petit peu davantage au sol et au contact de ses adhérents. Et c'est vrai que d'année en année, j'ai réduit pas mal mon nombre de sauts par an. Et je crois que plutôt que de bricoler, de faire 15-20 sauts par an, peut-être que s'arrêter de sauter, c'est plus sérieux. C'est vrai qu'en tant que directeur technique, je surveillais quand même de près les gens qui ne faisaient pas beaucoup de sauts. Quand on fait 15-20 sauts par an, c'est toujours des sauts à risque, on va dire. Voilà. Même si on a beaucoup d'expérience derrière, si on a fait beaucoup de sauts, c'est toujours... Faut être prudent, voilà. Donc, je ne sais pas si je ressauterai, mais certainement beaucoup moins, voilà.
D'accord, ok.
Il faut savoir s'arrêter un jour, de toute manière.
j'imagine, ouais. Alors, pour finir un peu avec cette interview, est-ce que toi, tu auras un conseil à donner à des sautants moins expérimentés que toi, quelque chose que tu souhaiterais partager?
Moi, le conseil que je donne aux gens qui débutent le parachutisme, je leur dirais qu'ils ont la chance, vous avez la chance, parce que tu fais partie de ces gens-là, vous avez la chance de vivre une époque où on a du matériel très sophistiqué, contrairement à il y a 30 ans ou 40 ans. C'est du matériel performant. Vous bénéficiez d'un encadrement performant et à tous les niveaux. Je crois que c'est vraiment une époque où le parachutisme est devenu un véritable plaisir. Moi, je conseillerais à tous les gens qui débutent, de se lancer dans la compétition. C'est vrai que on voit beaucoup de gens qui sautent, qui font du VR, qui font un petit peu de balle contact, qui font de la discipline artistique, mais de moins en moins qui font de la compétition et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc il faut faire de la compétition parce que c'est en faisant de la compétition qu'on progresse. On progresse très très vite quand on se lance dans une équipe de VR ou dans une autre discipline. Et puis profiter. Voilà, mais tout en restant prudent, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on fait du parachutisme, que ça paraît facile, que c'est sympa, l'euphorie c'est bien, mais faut rester prudent, parce que le parachutisme peut devenir rapidement un ennemi redoutable et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est toujours dommage de se retrouver avec une palme dans le plâtre ou voire pire. Voilà, donc prudence. Mais profitez.
Merci beaucoup Patrice pour ce temps accordé à nous expliquer un peu toutes ces histoires, c'est qui était vraiment incroyable. Aujourd'hui, la vie que tu as vécue est dingue dans le parachutisme. Merci pour tout ce que tu nous as partagé comme moment.
Merci et bonne continuation et bon saut.
Merci.